Nous allons lire dans le livre d'Esdras. Esdras. Esdras au chapitre 1er. Esdras chapitre 1er. Il est écrit ceci. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous et de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël? C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Nous lisons aussi dans le livre de Joël, Joël au chapitre 2, à partir du verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Nous venons de lire Esdras et Joël. Joël nous dit que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Et dans Esdras, il est écrit au verset 1er, au chapitre 1er, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Cyrus, ce n'était pas un juif, c'était l'empereur de l'Empire perse. Ce n'était pas un juif, mais il nous est dit que Dieu a réveillé son esprit afin que par Cyrus, la volonté de Dieu s'accomplisse, que le temple soit rebâti. Et dans Joël 2, il est écrit, « Dans les derniers jours, je remplirai toute chair de mon esprit. » Donc ça nous montre que Dieu a la capacité de réveiller un homme. Parce que la vie normale que les humains mènent devant Dieu, c'est comparé au sommeil ou à la mort carrément. Parce que la vraie vie selon Dieu, c'est lorsqu'on vit selon sa volonté, lorsqu'on vit selon le plan éternel qu'il a fait, conçu pour chaque humain. Mais sur la terre, le poids des soucis de la vie, le poids des désirs, le poids de l'égoïsme et de la convoitise, ça finit par peser sur nous et nous amener à vivre une vie endormie. C'est pourquoi on a besoin d'être réveillé. Cyrus ne pouvait pas de lui-même savoir qu'il faut construire le temple de Dieu. Il avait besoin que Dieu le réveille pour lui dire « J'ai besoin de toi pour construire mon temple. Et dans Joël 2, il est dit que Dieu va réveiller beaucoup de gens. Il va réveiller même toute chair. Il va parler à tout le monde. Nous voulons parler du fait que nous voulons voir Dieu réveiller les humains, que ce soit autour de nous, que ce soit ailleurs. Parce que si Dieu réveille quelqu'un, Dieu va se saisir de cette personne-là et l'amener jusqu'au bout, jusqu'à l'accomplissement de son travail. Le Seigneur va toujours jusqu'au bout. Il y a une réalité, c'est que beaucoup de gens dorment à deux niveaux. Premier niveau, c'est le sommeil lié à la vie normale. Hier, j'étais parti accompagner mon fils au sport et j'étais au milieu de parents qui étaient en train de discuter de choses et d'autres, de boîtes de nuit, du travail, du patron méchant, de tout cela. Et je regardais, je disais, mais ces gens-là, ils vivent comme ça et ils ne se rendent pas compte que le temps passe et Jésus-Christ revient. Ils ne se rendent pas compte que le monde sera détruit un jour. Dans leur discours même qu'ils sortent, ils ne se rendent pas compte que nous sommes dans un monde malade, compliqué. Comment peuvent-ils être comme ça, comme anesthésiés? C'est ça le sommeil. Les gens sont comme anesthésiés. Ils vivent au jour le jour. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. De la puissance de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc ces gens, je les voyais comme des gens morts, endormis, ne se rendant pas compte de l'enchaînement des événements. Ils ne se rendent pas compte que le monde se dirige vers un village mondial où il y aura quelques personnes qui vont tout contrôler. Ils ne voient pas tout ça. Ils ne voient pas que là, on a entendu des gens qui faisaient des tests de médicaments qui sont morts. Ils ne se rendent pas compte que les humains sont devenus comme des cobayes. On fait des tests sur eux. Ils ne se rendent pas compte que les mêmes gouvernements recommencent les mêmes discours, les mêmes palabres. Et rien ne change. Ils ne voient pas que la situation est étrange. D'un coup, il y a des attentats partout. Les gens vivent comme ça, comme si de rien n'était. Ils sont en train, ils ressemblent aux vaches, aux moutons qu'on amène à l'abattoir. Le matin de l'abattoir, le jour de l'abattoir, ces moutons, ces vaches, ces animaux ont l'impression que c'est un jour comme un autre, mais ce n'est pas un jour comme un autre. C'est le jour de la fin. Et c'est ce qui arrive à la génération d'aujourd'hui. Elle ne réalise pas que nous sommes à la fin. La situation devient grave. Bientôt, on risque presque de légaliser la pédophilie. Parce que le discours qui règne, c'est quoi? C'est que l'enfant est libre de choisir ce qu'il veut. Si un enfant, on a vu des documentaires, l'enfant à 8 ans, il dit à ses parents, je veux être un garçon, alors que c'est une fille. Et les parents travaillent pour que ça s'accomplisse. Il est libre. L'enfant, on a vu encore des articles sur Internet, un enfant qui décide de s'habiller comme une fille alors que c'est un garçon. On lui achète ça, on dit, mais c'est son choix. Donc bientôt, on dira, c'est le choix de l'enfant de vivre avec un adulte. Nous voyons tout ça autour de nous, mais les gens sont comme endormis. Les gens sont amenés dans l'abattoir par le Satan en enfer. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne voient pas que tout a changé. Et ça continue à changer. Les crises économiques, là je lis encore un article qui nous dit qu'il y a des crises qui vont venir, qui seront encore graves. Tout le monde parle de la Troisième Guerre mondiale. Tout converge vers cela. Mais les gens vivent normalement. Et c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dans les derniers jours, les gens continueront à se marier, à boire, à faire ceci, à faire cela. Et la fin du monde va les surprendre. Notre souci ce matin, c'est que Dieu réveille les gens. Les gens sont endormis, ils sont morts, comme on vient de lire dans Éphésiens 2. Ils sont morts. Nous devons prier que celui qui a réveillé l'esprit de Cyrus réveille aussi les autres humains qui sont en train de mourir. Je voyais toutes ces personnes. Quand je suis les infos, je vois toutes ces personnes. Quand on voit au mois de janvier combien de stars sont mortes, combien de vedettes. Mais quand les autres voient ça, ils ne comprennent pas que la vie d'un homme, c'est rien du tout. Quand on entend ces gens-là qui ont été même parfois anoblis, on leur a donné des titres par des rois. Ils ont été décorés par des présidents. Mais quand ils meurent comme ça, est-ce que les gens ne réfléchissent pas pour dire, mais non, mais c'est ce que nous, on est, nous les humains. Des gens qui pouvons atteindre le sommet de la montagne et mourir comme ça après, comme un animal. Comme c'est écrit dans le psaume 49. Mourir comme des animaux. Mais les gens ne réfléchissent pas à ça. Lorsqu'ils voient tous ces riches qui, à cause d'une crise, tombent et se suicident, mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir en ce moment-là? Nous avons besoin de prier pour que les gens soient réveillés par Dieu. Puisque ce texte nous montre que c'est Dieu qui a réveillé l'esprit de Cyrus. Ce texte de Joël 2, 28 nous montre que Dieu répandra son esprit sur toute chair. Il va réveiller. Mais il faut comprendre parce que quand Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus, il nous a dit que c'était en fonction d'une prophétie faite dans le livre de Jérémie. Et les lecteurs de la Bible savent que dans Daniel au chapitre 9, Daniel s'est mis dans la prière pendant longtemps afin que Dieu accomplisse cette prophétie qui est dans le livre de Jérémie. Et nous avons la prophétie de Joël 2, 28. Nous avons la promesse de 1 Timothée 2, 4 à 5. Il est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Nous avons toutes ces promesses. Est-ce que nous n'allons pas faire comme Daniel? Commencer à prier pour que Dieu réveille tous ceux qui dorment comme ça, qui s'en vont pas à pas en enfer. Le Seigneur veut nous interpeller sur le fait que nous avons une responsabilité, celle de le laisser d'abord nous réveiller nous-mêmes et ensuite nous mettre au travail pour réveiller les autres. Les signes sont là. Il y a des gens qui mangent et dorment comme d'habitude. Je vous l'ai dit, l'animal, le jour de l'abattoir, il croit que c'est un jour comme tout un autre. Parce qu'il ne connaît pas le langage des hommes. Quand les hommes, sur leur papier, ont écrit que demain, c'est la vache 45 qui sera abattue, la vache ne peut pas lire, elle ne sait pas. Et la vie d'un homme n'est pas entre ses mains. Il y a des puissances spirituelles qui gouvernent la vie d'un homme. C'est Dieu qui gouverne la vie d'un homme. Et ces puissances spirituelles te mettent dans une position de péché, de dégradation, de sorte que quand Dieu décide ta mort, tu es cuit, tu es fini. Il te prépare pour la mort et le départ en enfer. Il t'habille pour l'enfer. Mais le Seigneur veut te réveiller. Il veut te dire, il t'a pas destiné à la destruction, à la dégradation, à la déchéance. Il t'a destiné au paradis. Ne laisse pas ces puissances t'entraîner. Résiste. Nous lisons, on va revenir sur le psaume 49, mais lisons d'abord Luc 23. Luc 23, à partir du verset 39. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice. » Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Il y avait deux malfaiteurs qui ont vécu toute leur vie dans le sommeil, qui ont vécu toute leur vie dans la mort. Ils se retrouvent crucifiés à côté de Jésus. Et il y a un qui préfère, dans son orgueil, de continuer à dormir. Il continue à dormir, il continue à être en sommeil, il continue dans sa mort à critiquer Jésus alors que lui-même il est crucifié. Mais celui qui était à côté, de l'autre côté, Dieu le réveille. Il le réveille. Il lui fait comprendre sa propre situation. Parce que le premier réveil, la première partie du réveil, c'est que Dieu va te faire comprendre ta propre situation. C'est ça qui est écrit dans Jean 16. L'Esprit Saint convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Dieu va t'éclairer sur ta propre situation. La situation présente et la situation à venir. Il te montre, mais qui es-tu ? Regarde comment tu es coincé de part et d'autre. Quand je regarde les beaux bâtiments qui sont en France, les parcs, je dis, mais les humains ont réussi à faire tout ça, mais ils n'arrivent pas à éteindre la crise économique. Quand je vois les richesses qu'il y a en Russie, vous savez, la Russie est un pays qui est immensément riche. Il y a le diamant, il y a l'uranium, il y a le pétrole, donc ils sont un des grands producteurs de pétrole, un des grands producteurs de diamants, un des grands producteurs d'or. Ils sont presque premiers dans tout. Énergie hydroélectrique, centrale nucléaire. Mais les gens sombrent dans la misère. Les gens sont esclaves de l'alcool. L'alcool est devenu un problème national. Mais tout ça doit nous faire réfléchir. Comment une telle contradiction? D'un côté, tant de richesses. Et ils sont aussi des gens très intelligents, c'est des grands mathématiciens, grands physiciens. Mais comment tel tant de richesses, mais après il y a la misère. Les gens doivent réfléchir. Quand on regarde la beauté de nos espaces ici, on se dit, mais pourquoi malgré tout il y a la misère, il y a des SDF, il y a des gens qui s'entretuent. Avant-hier, il y a des jeunes qui sont morts en se cognant sur un arbre à 100 km/h dans un tronçon de 50 km/h. On se dit, mais pourquoi telle beauté, telle force, et finalement finir sur un arbre? Tout ça doit faire réfléchir. Donc, et Dieu, c'est lui par son esprit, et c'est lui par ses serviteurs, c'est lui par ses enfants qui va réveiller les autres pour dire, mais réveillez-vous, regardez. Il y a quelque chose d'anormal. On ne peut pas être si jeune, si fort, et mourir bêtement comme ça. Donc l'Esprit de Dieu a parlé à ce voleur pour lui dire, mais réfléchis, sors du sommeil, sors de l'anesthésie. Le problème avec le sommeil de toutes ces personnes, c'est que comme ils bougent, ils ne pensent pas qu'ils sont endormis. Vous savez, il y a un terme en français, on dit somnambule. Donc quelqu'un qui marche en dormant. Donc les gens marchent en dormant. Mais comme ils bougent, ils pensent qu'il y a quelque chose qui se fait. Ils sont là. Non. Il n'y a rien qui se fait. Ils sont entraînés. Vous savez, quand quelqu'un marche en dormant, tu peux maintenant lui prendre la main et lui indiquer là où il va aller se rendormir sérieusement, quoi. Donc Satan leur prend la main et dit, vas-y, à gauche. Donc il les pousse petit à petit vers l'enfer. À droite maintenant. Lui il dort, mais il a la capacité de marcher. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, ils dorment, mais ils ont la capacité de tuer. Ils ont la capacité d'injurier. Ils ont la capacité de manger. Ils ont la capacité d'aller danser. Mais c'est Satan qui leur indique, allez, là vous avez mis 70 km/h, il faut 80 km/h. Donc ils ont la capacité d'appuyer sur l'accélérateur. 90 km/h, c'est pas suffisant. Allez à 100. 100 km/h. Ensuite, il dit au chauffeur, tourne un peu à droite, ça ira mieux. Et c'était l'arbre. C'est comme ça que Satan entraîne les gens dans leur mort. Il dit, un petit verre de vodka. Ensuite, deux. Ensuite, un pour la route. Ensuite, un pour la maison. Et il t'entraîne. Toi, tu es somnambule. Tu dors, mais tu marches. Lui, il t'indique par où tu vas arriver en enfer. Et les gens sont malheureux. Mais puisqu'ils marchent, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont téléguidés. Ils pensent que c'est eux-mêmes. Or, les esprits agissent dans le cœur, dans la pensée. Et tu penses que ça vient de toi, mais en réalité, ça vient des mauvais esprits. Il te susurre des choses, mais toi, tu penses que c'est ta propre pensée. Et tu dis, je suis libre de faire ce qui vient à mon esprit. Mais c'est ce qui vient à ton esprit, c'est pas toi. On t'a communiqué ça, mais c'est toi qui acceptes ça maintenant. En acceptant, ça devient toi. Mais tu aurais dû résister. Il faut se réveiller. Dieu parle par son esprit, il parle aussi par ses serviteurs pour te montrer ta condition. Pour dire, voilà ta condition humaine. Voilà ta condition. À quoi ça sert de continuer ainsi? Et Dieu a montré à ce voleur-là sa condition. Regarde ta condition. Tu te retrouves crucifié. Mais il a continué à critiquer. L'autre, on lui a montré sa condition. Il a dit, mais c'est vrai, qu'ai-je à critiquer comme mon voisin voleur? Qu'ai-je à critiquer cet homme qui n'a rien fait de mal? J'ai assez fait de mal comme ça toute ma vie. Est-ce que je dois continuer même à la croix à faire du mal? Comme on voit des gens de 82 ans, de 75 ans, de 78 ans, continuer à vouloir faire toujours du mal, mais... C'est surtout ça que ça me dépasse quand j'entends qu'un pasteur qui a 72 ans, 73 ans, il a encore fait il a volé l'argent. Mais tu dis, mais à cet âge-là, tu continues encore vouloir faire du mal. À un moment donné, il faut dire, mais toute ma vie, j'ai été endormi. Maintenant, il faut que je serve à la gloire de Dieu. À un moment, il faut se réveiller. Et ce voleur s'est réveillé. C'est dit, toute ma vie j'étais endormi, Maintenant, je me réveille. C'est fini la vie du passé. C'est fini le sommeil. Maintenant, je vais vivre pour Dieu. Maintenant, ma vie doit servir à la gloire de Dieu. Elle dit, Jésus, souviens-toi de moi. Vous savez, il a utilisé les quelques minutes de vie qui lui restaient pour recevoir la vie éternelle. Les quelques minutes qui lui restaient encore, il s'en est servi pour recevoir la vie éternelle. Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Les quelques années qui nous restent, utilisons-les pour Dieu. On a servi le monde pendant des années. On a servi notre chair pendant des années. On a servi Satan pendant des années. On ne savait pas distinguer le mal du bien. On ne savait pas distinguer le côté gauche du côté droit. Maintenant, Dieu nous réveille pour nous dire, regardez où va le monde. Bien aimé, moi j'étais dans les histoires des partis politiques autrefois quand j'étais jeune. J'ai œuvré. Mais à un certain moment, tu te rends compte que tous ceux qui t'entourent, ils n'ont pas la même idée que toi. Leur idée, c'est de prendre le pouvoir et de se gagner aussi de l'argent comme tout le monde. Et tu te rends compte que les gens avec qui tu combats pour la justice, si on leur donne de l'argent pour t'empoisonner, ils vont prendre. Tout ce que fait l'homme pour chercher à transformer la terre en paradis, c'est vain. Depuis combien de temps les gens ne font pas de traités de paix? Mais il y a toujours les guerres et les bruits de guerre. Vous savez, le budget qui augmente chaque année, c'est quel budget? C'est le budget de le ministère de la Défense. Dans tous les pays du monde, ce budget-là augmente toujours. Alors qu'on sort toutes sortes de traités de paix, toutes sortes de conférences de paix, mais le budget des armées augmente toujours. Parce que tout cela est vain. Dieu nous montre par là que la terre est appelée à la destruction. Il nous montre par là que ça ne finira pas. Parce qu'il y a le péché sur la terre, il y a la destruction sur la terre. Le salut se trouve en croyant en Jésus pour aller au ciel, vivre là où le mal ne peut pas arriver. C'est ça le salut. Le salut ne se trouve pas ici sur la terre. Il faut que le Seigneur ouvre les yeux des gens pour comprendre ça. Et nous devons y contribuer, que les gens comprennent qu'il n'y a pas de solution. Je connais même un philosophe chanteur qui avait dit qu'il n'y a pas de solution. Lui, au moins, il a reconnu qu'il n'y avait pas de solution, mais il a proposé sa solution à lui, c'était la destruction totale. Voilà. Mais c'est une forme de solution. Si vous voulez que la guerre finisse, que tout cela finisse, ben on détruit tout comme ça, il n'y a plus rien. Mais il avait bien vu qu'il n'y a pas de solution. D'ailleurs, le titre, c'est « Il n'y a pas de solution ». Donc, je vous propose ma solution. Mais Dieu nous propose sa solution. Croire en lui, recevoir la vie éternelle et aller au ciel. Et il nous dit, sur terre, la seule solution qui reste, c'est la destruction. Alors, je veux vous sauver de cette destruction. Et que ceux qui ne veulent pas de mon salut subissent la destruction. Il n'y a pas d'autre solution, c'est la destruction. Mais avant la destruction, Dieu veut enlever les siens. Dieu veut sauver le maximum de personnes. Et il veut que tu fasses partie de ces gens-là. Il y avait deux personnes à côté de Jésus. Il y a une personne qui est partie au ciel, l'autre a subi la destruction. Il est parti en enfer. Dieu veut que tu ailles au ciel. Il veut te réveiller. Bien-aimés, nous devons prier pour que Dieu réveille les humains. Que Dieu répande son esprit et que les humains soient réveillés. C'est triste l'enfer. C'est dur l'enfer. C'est la souffrance. Et même... sans parler de l'enfer, c'est dur la terre. Même pour celui qui est milliardaire, c'est dur. Parce qu'avec ses milliards, il ne peut pas allonger sa vie. Avec ses milliards, il ne peut pas guérir du cancer. On a 3 morts successives au mois de janvier. Cancer, cancer, cancer. Cancer de gorge, cancer de la langue. Des cancers qu'on entend seulement dans les journaux télévisés. Et il y a des pauvres parfois en Chine qui atteignent 100 ans sans cancer et qui meurent de mort naturelle. Mais là, tous ces milliardaires, ces millionnaires, on connaît celui, il est mort même à 50 quelques, le monsieur de iPhone. Il n'a même pas atteint 60 ans. Tu meurs milliardaire. C'est une souffrance même d'être milliardaire sur Terre. Parce qu'il y a plein de problèmes que tu n'arrives pas à résoudre. Dieu nous propose de regarder la réalité en face. Parce que il y a même des chrétiens qui se laissent avoir, qui veulent faire de la terre leur paradis, qui veulent embellir la terre pour être le plus fort, le plus beau, le plus heureux, avec tout ce qu'il faut, et qui oublient Dieu petit à petit, qui sont dans le sommeil. Dieu veut nous réveiller pour dire, regardez la réalité en face. Est-ce que tu es plus riche que David Bowie qui vient de mourir à 69 ans? Est-ce que tu es plus riche que lui? Est-ce que tu as eu plus de femmes que lui? Est-ce que tu as eu plus de succès que lui? Regarde la réalité en face. Le pasteur économiste, je ne sais pas si je dois l'appeler pasteur, Miles Monroe, les gens qui aimaient l'argent, qui prêchaient l'argent au lieu de prêcher Jésus. Il est mort bêtement dans un accident d'avion, il avait un jet privé. Est-ce que tu es plus riche que lui? Lui, il avait un jet privé. Qui dit jet privé, dit pilote privé, dit hôtesse privé, steward privé, mécanicien. Tu payes tout ce monde, c'est à toi. Est-ce que toi, tu es plus riche que lui? Mais regarde comment il est mort. Bêtement. L'avion qui a atterrissé, qui cogne un engin de construction. Cet homme-là a passé son temps à prêcher sur l'argent. Il a passé son temps à prêcher sur le fait que nous avions des potentiels. Au lieu de prêcher la puissance de Dieu, lui, il prêche le potentiel de l'homme. L'homme n'est rien. La Bible dit dans Ésaïe 2, 22, l'homme n'est qu'un souffle. Il n'est rien du tout. C'est ce qui est écrit. Qui est l'homme? Il n'a qu'un souffle. Et je voyais dernièrement sur YouTube, quelques semaines avant sa mort, on lui a fait un anniversaire en Afrique du Sud. Et tout le pasteur était là. Il y a un pasteur, excusez-moi, mais un pasteur gabonais qui était là en train de dire, Pasteur Moreau, nous venons te célébrer. Célébrer un homme! Voilà. Lui, il était là en train de sourire. Nous venons te célébrer. Tu as transformé ma vie. J'ai écouté une cassette. Et bon, à un moment, je viens te confier le drapeau du Gabon. Donc il lui donnait le drapeau. En symbole, on veut t'inviter dans notre pays. Et maintenant, ils se sont levés pour donner le drapeau. Le faux pasteur commence à prophétiser à l'autre faux pasteur. Tu vas vivre beaucoup d'années, mais il est mort dans quelques semaines. Voilà. Tu vas vivre beaucoup d'années. Bien-aimés, on est obligé de dénoncer ça au nom de Jésus. Parce que ça mène les gens en enfer. Moi, je ne peux pas être content de voir quelqu'un en enfer. Il dit, mais tu vas vivre beaucoup d'années, tu es un grand, tu es un homme que Dieu... Voilà, tu vas vivre beaucoup d'années. 4 semaines ou 3 semaines après, accident d'avion, il meurt. Bien-aimé, on ne peut pas être d'accord avec ce qui amène les gens en enfer. L'amour pour l'argent. Mais tu vas faire quoi maintenant quand tu fais cet accident-là? Pendant que l'accident arrive, ton compte bancaire, j'ai des millions, mais les millions là vont faire quoi? L'avion est en train d'exploser. C'est ça la réalité. Ça vient comme un flash. Hein? Ça vient très vite, toute ta vie vient très vite dans la quête. Tu vas faire quoi avec tout ça? Quand ces jeunes-là cognent l'arbre, ça vient très vite. Mais ta force de jeûne, ça va faire quoi? Réveillons-nous, bien-aimés. N'acceptons plus ceux qui amènent les gens en enfer. Jésus a trop souffert pour le salut de l'homme. Prions et avertissons les gens de sortir de l'endormissement. Et nous avons des promesses, des prophéties qui nous montrent que Dieu lui-même va réveiller. Parce qu'il faut que Dieu réveille. Quand Dieu te réveille, tu es quelqu'un de nouveau. L'esprit te saisit, il commence à t'entraîner. Même quand tu es fatigué, l'esprit est là, il te renouvelle. Et je voulais parler en deuxième partie du réveil du chrétien. Le chrétien qui ne prend pas conscience que nous sommes du ciel. Nous sommes de passage sur la terre. Nous sommes du ciel. Si tu oublies ça, tu vas sortir à côté tu vas sortir de la volonté de Dieu. Nous devons construire notre éternité. Le Seigneur dit dans Matthieu 6, amasser des trésors au ciel. Il nous l'a dit clairement, ce n'est pas une image. C'est Dieu lui-même qui nous dit, amassez des trésors au ciel. Construisez votre habitation au ciel. La terre passera. Il y a des gens qui ont des parents qui sont morts. Ma mère est morte. Les choses de la terre passeront. Beaucoup de chrétiens sont dans l'inertie aujourd'hui, sont dans le sommeil, dans la distraction. Ils louent Dieu, mais c'est plus la musique qui compte, ce n'est pas le cœur que le Seigneur nous réveille. Notre vrai bonheur se trouve au ciel. Préparons ce bonheur aujourd'hui. Utilisons la grâce de Dieu. Utilisons la puissance de Dieu pour préparer ce bonheur aujourd'hui. Construisons le royaume de Dieu. Beaucoup sont endormis. Nous lisons dans Matthieu 25 la parabole des vierges folles et des vierges sages. Alors le royaume des cieux, Matthieu 25, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux !» Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Conseil du Seigneur, verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Veillez donc. 5 vierges folles, 5 vierges sages. Mais toutes sont des vierges, ça veut dire que c'est des gens qui ont été purifiés par Dieu. C'est des gens de Dieu. C'est ça l'image. Mais il y en a qui sont folles, il y en a qui sont sages. C'est de cela qu'on est en train de parler. Il y a des chrétiens qui sont dans une certaine folie parce qu'ils ont oublié que nous sommes du ciel. Et à cause de ça, les persécutions qui vont venir vont les amener à parfois renier le Seigneur, parfois faire marche arrière, parfois à faire des compromis graves. Alors que ces persécutions annoncent la venue du Seigneur, c'est le moment même d'être éveillé, de dire « Je veux vraiment être chrétien, c'est maintenant que je dois l'être. » Parce que le Seigneur vient bientôt. Mais eux, ils vont faire marche arrière en ce moment-là. C'est ce qui est écrit dans la parole. Il y aura l'apostasie. Beaucoup vont abandonner la foi à cause de la pression. La pression est forte. On est d'accord. Personne ne nie la puissance de la pression. Et on le disait même les autres jours, les jours précédents. Aujourd'hui, ce qui est mal, c'est ce qu'on dit qu'il est bien. Et ce qui est bien, on commence à l'appeler mal. Quand tu critiques les religions, on t'applaudit. Mais quand tu critiques l'homosexualité, on te pointe la menace du tribunal. Ce qui est mal est devenu bien maintenant. Alors, en ce moment, il va y avoir plusieurs discours. Des gens qui vont dire, ah, mais non, il faut se calmer, il faut s'adapter à notre époque. Non. La vérité de la Bible ne bougera jamais. La parole de Dieu, c'est elle qui sauve. C'est clair. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire, on lui dit, le médicament efficace qui va te guérir, c'est celui-ci. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire, bon, comme ce n'est pas sucré, essayons de diminuer la force du médicament. Il va dire, non, non, moi je vais être guéri le plus vite. Ce qui nous amène le plus vite au ciel, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous guérit, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le compromis. J'ai vu même sur Internet, il y a trois religieux, je crois, il y a un rabbin, peut-être un imam, et puis un prêtre catholique, je crois, qui réclame, qui collecte des fonds pour construire une église, ils appellent ça église, hein, enfin un bâtiment commun de culte en Allemagne. Et aujourd'hui, l'Allemagne est devenue ce que nous avons vu lors d'un documentaire. C'est devenu vraiment Berlin est devenu les portes de l'enfer parce que vous savez que il y a les portes de Babylone qui étaient appelées autrefois les portes de l'enfer à cause des dragons qui étaient dessinés, des animaux de l'enfer qui étaient dessinés sur ces portes. On les considérait comme des portes de l'enfer. Ben, ces portes ont été retrouvées par les chercheurs allemands. Ils les ont transportés pour les poser à Berlin. Et nous connaissons aussi le temple de Pergame, dont le Seigneur dit que c'est là où vit, c'est là où se trouve le trône de Satan dans les lettres d'Apocalypse. Ce temple de Pergame a été déraciné, transplanté pour être amené en Allemagne. À Berlin toujours. Et l'Allemagne devient le centre de la déchéance humaine. Dernièrement, j'entendais aux infos qu'ils ont fait des frais tout compris. Tu payes 50 euros, tu as la nourriture, donc au lieu d'aller au McDo manger ou bien dans un restaurant avec 50 euros manger, non, avec 50 euros, tu as la nourriture et on te donne des prostituées avec. Et ils ont dit que nous avons fait ça pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Comme ça, ils peuvent se faire des petites fêtes personnelles. Tout ça, c'est à Berlin, en Allemagne. C'est le centre diabolique aujourd'hui. Et ce bâtiment-là, ils veulent faire ça encore là-bas. Parce qu'ils ont la puissance financière, ils se permettent tout. Et ils veulent que tout le monde suive. Et beaucoup de chrétiens commencent à avoir des discours comme ça, de tolérance. Parce qu'ils n'ont pas envie de la guerre. Mais nous sommes en guerre, nous les enfants de Dieu. Il est écrit dans Jérémie 48, « Maudit quiconque retire son épée du carnage. » Nous sommes en guerre contre les forces des ténèbres. Nous devons dénoncer leurs œuvres. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui disent, bas la terre, calmons-nous un peu. Non, bien-aimés, nous sommes de passage. Dieu nous a laissés sur terre pour faire son œuvre. Il n'a pas laissé sur terre, nous a pas laissés sur terre pour construire des châteaux en Espagne. Il nous a laissés sur terre pour annoncer la bonne nouvelle. Avertir les gens que la fin s'approche. Que chacun vienne à Jésus. Pas que chacun vienne dans notre église. Chacun vienne à Jésus. Parce que c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui transforme. C'est pourquoi le Seigneur nous a laissés. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui s'endorment. Ils vivent tranquillement. Ils ont oublié que nous sommes de passage. Nous ne demandons pas à tout le monde d'aller prendre le micro et de prêcher. Nous ne demandons pas à tout le monde d'aller à la télévision et parler de Dieu. Mais tout commence par la prise de conscience. Nous sommes sur terre. Alors que rien ne va, les gens sont en train de, comme des somnambules, on les amène en enfer par le diable et nous nous regardons. Ah non! Au minimum, ce qu'il faut faire, c'est ça mon thème aujourd'hui. Au minimum, commencer à prier. Au minimum, dire au Seigneur, je suis disposé à ce que tu m'utilises pour parler aux gens. Parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Au minimum, on dit, Seigneur, je suis là. Sers-toi de moi. Je ne peux pas supporter de voir les gens qui sont entraînés comme des somnambules en enfer. Et ces chrétiens-là qui sont en train de dormir, c'est des vierges folles. Vous savez que notre force vient aussi de l'obéissance à Dieu. Notre force vient aussi de l'accomplissement de notre mission. Plus tu es dans l'accomplissement de la mission que Dieu a mise dans ton cœur, plus tu es fort pour résister au péché, résister au diable, résister aux tentations. Plus tu es dans la volonté de Dieu pour te le servir, plus tu résistes aussi. Parce que en servant le Seigneur te donne la force et cette force va te servir pour tout le reste. Beaucoup oublient ça. De sorte que en restant spectateur de ce qui se passe autour de nous, dans notre famille, on ne prie pas, on ne lutte pas dans la prière, on ne prend pas des décisions. Vous savez, de manifestation de ce qu'est Dieu. Quand on est avec les membres de nos familles, on se comporte comme juste des humains normaux. On ne se comporte plus comme des chrétiens. Tout ça pour avoir la paix humaine. On leur ferme ainsi la porte du paradis. Alors qu'on devrait toujours se comporter comme chrétien. Pour qu'ils continuent à comprendre qu'il y a une différence. Pour qu'ils continuent à comprendre que Dieu les appelle. Mais nous, quand on se retrouve en famille, on oublie tout. On croit que c'est la famille qui est le paradis, alors qu'on voit tant de morts dans nos familles. Tant de séparations, tant de divisions. Mais on oublie tout ça. Parce qu'on est endormi. Et ce sommeil-là sera fatal pour beaucoup de personnes. Quand le Seigneur viendra, ils ne partiront pas. Parce qu'ils n'attendaient pas le Seigneur. Le Seigneur veut que les chrétiens se réveillent. Sois attentif. Jésus dit, levez la tête, regardez. Voilà. Il dit, quand vous verrez toutes ces choses, levez la tête. Le Fils de l'homme est à la porte. Restons et vivons en chrétiens. Afin que nous soyons un message pour les autres. Le Seigneur a dit, nous sommes la lumière du monde. C'est le moment d'être attentif. À ne pas sombrer dans le train quotidien. Restons des enfants de Dieu de passage sur la terre. Que l'Esprit du Seigneur réveille les gens par rapport à leurs appels. Ça, c'est la troisième partie. Nous voulons que l'Esprit de Dieu réveille les gens par rapport à leurs appels, comme il a réveillé Ézéchiel. Ézéchiel était tranquille là où il était, on le prend par un ange, on l'amène, on dit « Allez, mange le rouleau !» Il a mangé le rouleau, on a dit « Allez, maintenant tu peux aller annoncer la parole de Dieu. » Samuel était tranquille, en train de dormir. Il entend la voix du Seigneur qui l'appelle Samuel, il ne savait pas. Or, c'était le début du réveil. C'était le début de son appel. Il va voir Élie, mais tu m'as appelé, Élie dit, moi je ne t'ai pas appelé. Il va se rendormir, il entend encore Samuel. On le réveille par la voix de Dieu. Il vient voir Élie, tu m'as appelé, non, ce n'est pas moi. Il est parti se rendormir, il entend encore Samuel. Il va voir Élie, Élie lui dit, ah je comprends, c'est Dieu qui t'appelle mon petit. Maintenant, quand tu vas entendre la voix, tu réponds quoi? Seigneur, je suis ton serviteur. Je t'écoute. Bien-aimé, tu sais que Dieu te réveille, mais tu fais des zigzags. Tu fais des zigzags. Dieu te réveille. Tu sais de quoi je parle. Mais tu ne veux pas tout abandonner. Toutes sortes d'arguments. Parce que beaucoup disent, mais moi je veux bien, mais non. Si Dieu ne continue pas, c'est que toi tu ne veux pas tout abandonner. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il lui demande de tout laisser. Et de le suivre. Il y a des gens qui ont dit, mais je veux aller dire au revoir, faire... Mais non, c'est bon, suis-moi. Dieu va régler tout ça. Je vais enterrer mon père. Laisse les morts enterrer leurs morts, suis-moi. Ça veut dire que tous les arguments qu'on met à côté pour dire, je ne sais pas parler, Moïse a dit, je ne sais pas parler, Dieu a dit, c'est moi qui ai créé la bouche. Il a voulu dire, mais je n'ai pas de puissance. Oui, mais prends ton bâton, laisse tomber, ça devient un serpent, tu vois. Ah d'accord, le Seigneur peut répondre à tout, mais il attend des cœurs disposés, des gens qui sont prêts à tout lâcher pour le suivre. Parce que beaucoup vont dire, mais comment faire pour saisir l'appel de Dieu? La réponse est claire, il faut être prêt à tout lâcher pour suivre. Parce que Dieu a appelé tous les chrétiens, dans 1 Corinthiens 12, c'est écrit que nous sommes le corps de Christ, chaque organe a son rôle. Mais le Seigneur, avec nous, il va de gloire en gloire. Et il dit dans Luc 16, 10, celui qui est fidèle dans les petites choses, il lui confie des grandes. Mais pourquoi parfois ces grandes-là n'arrivent pas? Parce que tu n'as pas été fidèle dans les petites choses. Tu n'as pas tout lâché dans les petites choses. Dans les petites choses, tu es dans les raisonnements, tu es dans la chair. C'est pourquoi le Seigneur ne peut pas continuer. Parce que le Seigneur dit dans Jean 14, 12, ceux qui viendront après lui feront des grandes choses. Tu ne peux pas prétexter que c'est parce que tu es une femme. Jackie Poulinger, c'était une femme. Mais Dieu s'est servi d'elle pour toucher la zone, la cité interdite de Hong Kong, là où il y a les plus grands voyous du monde. Mais une femme de 23 ans a travaillé là-bas pendant plus de 20 ans. Et on ne l'a jamais tapé, on ne l'a jamais agressé. Dans ce milieu-là, il a converti des opiomanes, des prostituées, parce qu'elle était disposée à tout lâcher et suivre Dieu. C'est ça, le centre de tout. Dieu veut réveiller les gens. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui je ne veux pas dire à quelqu'un, va avec ta force. Avec ta force, tu ne feras rien contre le diable. Il faut aller avec la force de Dieu. Et Dieu, quand il te réveille, il te donne sa puissance. Et rien ne te résistera. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Parce que c'est moi qui t'ai réveillé. Le Seigneur veut réveiller. Il veut te pointer. Il te met le doigt comme ça. Il dit, toi, suis-moi. C'est ce qu'il te demande. Sois prêt à tout lâcher. À lâcher les raisonnements humains. À lâcher les calculs humains. Il est écrit, Dieu a réveillé Esdras. Parce que certains vont dire, mais il me réveille, mais qui va m'aider? Mais quand il a réveillé Esdras, il a réveillé d'autres personnes. C'est écrit, on a lu dans Esdras 1. Il a réveillé Cyrus. Il a réveillé Esdras. Ensuite, il réveille les gens qui vont aider Esdras à faire le travail. Donc, quand Dieu te réveille, il va réveiller d'autres pour t'aider. Tu ne peux pas se dire, ah, mais je suis tout seul. Non. Alors, si tu es tout seul, commence à prier que Dieu réveille les autres. Dans sa bonté et dans sa puissance. Il est tout puissant. Il veut réveiller. Il veut se saisir d'un homme et d'une femme. De tous. Mais soyons prêts. Soyons prêts à tout lâcher. Soyons prêts à lâcher même notre propre vie. Comme le frère Paul le dit, je ne fais plus aucun cas de ma vie. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Je ne fais plus aucun cas de... Plutôt 24, 16. Je ne fais plus aucun cas de ma vie. On va lire ça, Actes des Apôtres. Chapitre 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je ne fais plus aucun cas de ma vie. Pourvu que j'accomplisse la mission de Dieu. Et c'est comme ça. C'est cet état d'esprit que le Seigneur attend pour réveiller. Et quand le Seigneur va te réveiller, bien-aimé, tu réaliseras que le Saint-Esprit existe. Parce que même quand toi tu vas oublier les choses reviendront dans ta tête. Pour te dire, mais il y a tel endroit, tu dois aller là-bas. Même quand toi, tu vas parfois négliger, ça reviendra. Parce qu'il t'a saisi. Comme Paul dit, il m'a saisi, moi aussi je vais le saisir. Il t'a saisi, et à partir de là, il t'amène. Il va t'agiter. À chaque fois, il veut que tu fasses quelque chose, il va t'agiter par rapport à la chose. C'est ce que nous devons demander. Nous n'allons pas embêter les gens, dire il faut que tu travailles, il faut que tu fasses ceci. Non, on va dire au Seigneur, nous voulons que tu réveilles les gens, que tu les sortes du sommeil. Mais en même temps, Dieu va nous utiliser aussi pour parler. Mais ce qu'il attend le plus de nous, c'est de commencer à prier pour que Dieu réveille les humains, il réveille les gens autour de nous. Réveille Seigneur. Bien-aimé, quand le Seigneur va réveiller, on sera heureux. Les choses iront. Donc, ce n'est pas nous qui allons dire à quelqu'un, viens prier, la personne est là. Parce que Dieu l'a déjà réveillé. Le Seigneur veut réveiller, bien-aimé. Et il nous appelle. Nous devons accepter de tout lâcher. Et nous mettre au service du Seigneur. Dans Ésaïe 62, il y a une autre catégorie de personnes. On les appelle les intercesseurs, les gardiens, les sentinelles. Il a dit, j'ai placé des sentinelles qui vont crier à Dieu jour et nuit. Ésaïe 62. Jour et nuit, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem dans sa gloire. C'est des gens qui ne vont pas se satisfaire de l'état des choses et qui vont commencer à prier jusqu'à ce que les choses changent, jusqu'à ce qu'ils voient Dieu réveiller des personnes qui vont commencer à prier, même des enfants. Dans Joël 2, 28, c'est dit, même les jeunes gens vont prophétiser Les vieillards auront des songes, tout le monde va agir, tout le monde sera agité. C'est ça la promesse de Dieu. Mais comme ça sera malheureux de rater tout ça, de voir tout le monde être agité, toi tu n'es pas agité, mais pourquoi tu n'es pas agité? Parce que tu es trop accroché à la terre. Ésaïe 6. Il est écrit ceci. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Nous clôturons avec ce passage. Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Il a dit « Malheur à moi ». Le réveil commence là. Tu regardes, tu dis « Mais tout ça a été fait par Dieu. C'est glorieux. Je ne suis pas digne. » L'apôtre Pierre a vu Jésus faire les miracles. Il a dit « Malheur à moi. Comment je peux être dans la même barque que cet homme ? Il ne peut être que Dieu lui-même. » Et il dit « Malheur à moi, j'ai le péché. » Et donc, quand on se rend compte de Dieu, il nous montre premièrement notre état, notre situation. Qu'on est pécheur, qu'on est faible, qu'on est limité, qu'on mourra un jour. Il y a le jugement qui nous attend. On sent tout ce poids-là. On crie à lui. Alors, il dit, ben, je te pardonne. Maintenant, lui aussi nous parle, il dit, mais alors, qui est-ce que je vais envoyer pour pardonner aux autres? Ésaïe a dit, « Ah, Seigneur, me voici, envoie-moi. » Alors, tous les arguments pour dire, « Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ça ne tient pas. » Puisque le Seigneur veut se servir de tout le monde. Les gens qui disent, « J'ai le péché. » Ça ne tient pas parce que le Seigneur peut pardonner et te donner une nouvelle vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut réveiller beaucoup de personnes qui sont en train de mourir. Alors, il cherche des gens qui vont dire, « Me voici, envoie-moi. » Et des gens, dans Ésaïe 62 aussi, qu'on voulait lire, qui disent, qui vont prier jour et nuit. Qui vont prier jour et nuit. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem dans sa gloire. Donc des gens qui vont dire, on n'est pas satisfait de ce qui se passe. Qui vont se lever la nuit, qui vont se lever le matin, qui vont dire au Seigneur, je ne te laisserai pas en paix tant que je n'ai pas vu ta gloire. Tant qu'on n'a pas vu des hommes et des femmes se lever pour sauver la Normandie, sauver la ville de Rouen, je continuerai à prier pour que tu réveilles les gens. Parce que c'est des promesses que tu nous as faites. Tu nous as fait la promesse que dans les derniers jours, ton esprit remplira toute chair. Je continuerai à prier pour tout ça. Ils cherchent de telles personnes. Qui vont dire, envoie-moi pour aller parler. Que les gens croient ou pas, au moins, ils vont savoir que tu existes et que tu as envie de les sauver. Et en même temps, des gens qui vont dire chaque jour, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir les choses changer. Pas pour qu'eux, ils soient célèbres, mais qu'ils voient la gloire de Dieu. Des gens adorer Dieu, louer Dieu, servir Dieu dans la vérité. La Bible nous donne l'exemple d'un monsieur qui s'appelait Siméon. Il a prié pendant longtemps, il a dit, Seigneur, je veux voir la consolation d'Israël. Moi, je crois en toi. Et il nous a dit que Dieu lui avait promis qu'il ne mourra pas sans voir ça. S'il a promis ça à Siméon, qui était déjà vieux, qu'il ne mourra pas sans voir sa gloire, la consolation d'Israël, mais à combien plus forte raison, toi? Change de mentalité, accepte que nous sommes de passage et vis pour le ciel. Et attends-toi à ce que Dieu t'appelle. Attends-toi à ce que Dieu te réveille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La voix du Seigneur m'appelle. Je viens prier afin que ton Esprit Saint réveille tous ceux qui dormaient, Seigneur. Que ton Esprit réveille tous ceux qui dormaient. Au nom de Jésus-Christ. Nous te cherchons du fond de notre cœur, Seigneur. Nous te disons, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, nous te disons, Seigneur, nous voulons voir les choses changer. Alléluia. Mon âme te désire. Que nous puissions voir la consolation des enfants de Dieu. Que nous puissions voir ta consolation dans nos familles. Seigneur, manifeste-toi. Que nous puissions voir des gens qui vont te travailler pour toi. Sans une logique de gain financier, Seigneur. Manifeste-toi. Afin que nous voyons des gens résister, proclamer clairement ce qu'est le mal, ce qu'est le bien. Quitte à aller en prison, Seigneur. Au nom de Jésus, manifeste-toi. Nous nous attendons à toi. Viens régner au milieu de nous, viens régner dans le cœur. Réveille ceux qui dormaient, Seigneur. Réveille ceux qui dormaient, au nom de Jésus. Réveille ceux qui croient même être éveillés alors qu'ils dorment, Seigneur. Ton esprit peut le faire, au nom de Jésus. Et aide-nous à tout lâcher pour te suivre intégralement. Aide-nous, Seigneur, à venir à tes pieds, dire, Seigneur, change-moi, transforme-moi, Seigneur. Change-moi. À toi la gloire, la louange, Seigneur. Merci de changer nos cœurs. Que nous soyons branchés au ciel. Que nous soyons approvisionnés par la puissance d'en haut pour te servir dans cette génération perverse. Que nous brillons comme des flambeaux afin que le maximum soit sauvé. Amen.